Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
La plus connue et la plus ancienne de ces expériences d'habitat collectif et participatif pour seniors, c'est la maison des Baba Yaga à Montreuil, autoproclamée anti-maison de retraite. Fondée par la militante féministe Thérèse Claire en 2013, elle est réservée aux femmes de plus de 60 ans qui veulent vieillir indépendantes et autonomes. Elle a fait l'objet de plusieurs documentaires. Ne pas vieillir seule et maltraitée en EHPAD, c'est le but donc, mais pas seulement. C'est une expérience de vie, mais aussi un acte politique qui repose sur l'idée qu'en vieillissant, on continue à être acteur ou actrice de sa vie, citoyen et citoyenne, engagé de préférence. D'autres expériences en sont inspirées, comme le projet en cours à Bègle, qui s'appelle les Bobo Yaka, avec une vingtaine de personnes de 60 à 85 ans qui sont en train de former une coopérative de seniors. À la Ménardière, en Haute-Garonne, à une petite heure de Toulouse, où nous sommes aujourd'hui, le projet n'affiche pas ses couleurs aussi clairement, mais on devine l'esprit utopique, le souffle créateur et l'engagement qu'il a fallu à Anne-Marie et Michel pour se lancer dans l'aventure. 300 mètres carrés sur deux étages, un jardin de 2 hectares, une grande maison de maître en pierre rouge, une piscine désormais et des petits pavillons autour. Le lieu appartient aujourd'hui à 14 personnes. C'est un article de Guillaume Thion dans Libération qui nous a mis la puce à l'oreille. Anna Benjamin est allée voir sur place la vie en rose des seniors solidaires.
Je m'appelle Anne-Marie Faucon, j'ai 79 ans, j'ai été infirmière en psychiatrie pendant 7 ans à peu près. Je travaillais dans un pavillon de gâteuses, comme on les appelait à l'époque, qui étaient des vieilles personnes très très maltraitées. Et c'était une vie qui était insupportable, on était gardienne, c'était vraiment abominable. Et il n'était pas question que je continue à vivre comme ça. Et on s'est rencontrés avec Michel à ce moment-là, lui-même cherchait à changer de vie, et on s'est dit, bon, on arrête tout, on essaie de faire autre chose. Et j'ai jeté ma blouse aux orties pour créer une petite salle de cinéma avec mon camarade Michel. Et donc on est parti, on a récupéré une salle de patronage et on a créé le premier cinéma Utopia. La première salle Utopia, c'était en 76 à Avignon. Et petit à petit, on est arrivé effectivement à créer une sorte d'alternative à ce qui était un peu le cinéma dominant, c'est-à-dire la tendance multiplex, la tendance relais du cinéma américain, de divertissement. C'était, voilà, un cinéma d'art et d'essai, mais le meilleur du cinéma pour le plus grand nombre. Et donc, on a fait une séance de cinéma un jour, en 2018, où on disait, maintenant qu'on arrive à la retraite, qu'on est en train de transmettre les cinémas en coopérative à tous les salariés, qu'est-ce qu'on va faire de nos jours ? Et donc, on a fait une séance de cinéma où on a projeté un film qui s'appelait « Et si on vivait tous ensemble ?» où justement, toute une bande essayait de récupérer leur vieux copain Claude Riche, qui était un peu Alzheimer et mis dans un EHPAD, pour l'empêcher de vivre de façon dégradante et décider de vivre tous ensemble dans une grande maison. Et à partir de là, il y a 60 personnes qui sont venues et on a discuté longuement et on s'est dit, putain, mais on va pas accepter ou de finir dans une maison de retraite ou tout simplement rester seul et cesser d'avoir toutes les activités qu'on a. En plus, il y avait eu un article dans Le Monde qui disait « La France maltraite ses vieux ». On s'est dit « Non, c'est pas possible. On veut du respect, on veut continuer à être considéré. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va accepter le destin qui est réservé pour les vieux ? Est-ce qu'on va accepter d'avoir une vie conventionnelle ? Après avoir fait tout ce qu'on avait fait toute notre vie, on avait envie de continuer. Comme la plupart des gens, d'ailleurs, ceux qui arrivent à la retraite, ils ont envie de continuer à vivre. L'âge de la retraite, c'est un âge comme un autre. Le texte du départ, c'était « Et si on vivait tous ensemble ?» Et je racontais une histoire, un conte de fées. On trouverait un château, on l'aménagerait, on ferait de la culture, on projetterait des films, on vivrait ensemble et on s'accompagnerait jusqu'à la fin de la vie. Et on a fait un groupe de 14. Personne ne se connaissait. Donc, nous avons trouvé la maison suite à la recherche de deux personnes qui faisaient partie du groupe et qui ont commencé à nous tanner parce qu'elles étaient tombées complètement amoureuses de cette maison. Elles avaient tout calculé, que c'était dans un centre de village, que c'était bien desservi en transport en commun, qu'il y avait des cabinets médicaux. Donc, on pouvait être à la fois à la campagne, dans un endroit très beau, et pouvoir avoir des activités culturelles, parce qu'il y avait des écuries qu'on pouvait agrandir, on pouvait construire des maisons pour agrandir le groupe. Donc, c'était idéal. Et ça coûtait 1 million. À 14-15, c'est sûr que ça devient accessible. Et donc, on a été 14 à visiter la maison, et on est tous tombés amoureux de la Ménardière, et on s'est dit, c'est là qu'il faut qu'on arrive à implanter cette alternative. Et on a signé l'achat définitif en octobre. Donc, c'est allé très, 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 très vite. Quand on est arrivé en janvier 2020, on ne s'est pas installé, c'était pour faire les travaux. Ça a été la catastrophe, c'est-à-dire que les travaux ont été interrompus tout de suite par le Covid. Certains se sont retrouvés privés de leur entreprise, par exemple, ou privés de leur emploi. Il y en avait deux qui étaient en séparation. Enfin, ça a été très, très compliqué. Et certains ont déclaré forfait. Il y a eu une espèce de crise, ce putain de facteur humain, comme diraient des copains qui s'occupent d'habitat partagé. Et donc, on a décidé de se séparer. Alors, ça a été assez conflictuel. On a pris un médiateur. On est arrivé à un accord où on a remboursé la totalité de ceux qui partaient. Mais le problème d'un projet comme ça, c'est que vous avez beau écrire les choses, définir le projet, les mots n'ont pas le même sens pour tout le monde. C'est-à-dire que chacun les interprète avec son vécu et projette un fantasme différent. Et le problème, c'est que quand vous arrivez dans la réalité, vous vous apercevez que tout le monde n'a pas fait le même rêve et qu'il y a incompatibilité. Voilà. Et petit à petit, l'ancienne équipe est pratiquement intégralement partie et petit à petit a été remplacée par des nouveaux venus qui ont repris leur part. Et on est à nouveau 14 maintenant. La coopérative, ça remet en question le sens de la propriété. C'est-à-dire que la coopérative qu'on a fait, elle nous survivra parce que c'est fait pour ça. C'est une sorte de mouvement perpétuel qui va s'enclencher définitivement à partir du moment où les gens sont d'accord avec les statuts, les fondements même de ce qu'on a fait, habiter collectivement et créer de la culture, créer du lien, enfin, etc. Et personne ne pourra s'approprier cette chose-là. Chaque personne apporte 90 000 euros. En achetant des parts de société, donc il y a 70 000 euros de parts, il y a 20 000 euros qui sont donnés pour le travail déjà fait, et ces 70 000 euros peuvent être récupérables le jour où on s'en va, ou si c'est les pieds devant que les héritiers puissent récupérer la somme, et puis après on paie une redevance en fonction de la surface privative occupée. Ça peut aller de 340 euros à 1000 euros si on occupe une petite maison. Et tout ça, ça va avec les recettes chambres d'hôtes, avec les dons des uns et des autres. Ça va dans un pot commun qui permet de faire l'équilibre, de tendre vers l'équilibre et de rembourser les emprunts. Voilà. Donc sur le domaine, on est actuellement 7 à vivre. Les plus jeunes ont 62 ans et les plus vieux, c'est Michel, 82. On s'est réparti des espaces privés, puisque le but c'était d'avoir chacun un espace privé et en même temps d'avoir des espaces collectifs pour le quotidien et des espaces collectifs ouverts au public, de façon à ce qu'on puisse recevoir la totalité du village ou des gens qui viennent d'ailleurs. On a régulièrement des séances de projection. Ça peut être aussi des concerts, ça peut être... Pendant l'été, on fait des représentations en plein air, donc c'est tous les week-ends, c'est 3 jours par semaine, en gros. Et on fait un travail avec les écoles du coin. Sylvie organise des projections avec les gamins des écoles. Voilà. Et donc, après cette... Là, on est en train de construire 4 nouvelles petites maisons qui vont recevoir 7 nouveaux coopérateurs et on a également de nouveaux candidats. C'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à 20. Et on arrête l'art là parce qu'on trouve que au-delà de 20, ça risque d'être moins bon pour la concertation, pour la cohérence du groupe, etc. Et puis après, la vie fera son cours et sa sélection. Il y en a qui clapoteront et puis il y en a d'autres qui les remplaceront. Voilà.
Je suis Michel Malacarné et je suis un des premiers habitants de la Ménardière. J'ai 81 ans maintenant, bientôt 82. Cette maison, elle est de 1754. On l'a achetée au comte de Robiano, baron de Safran. Il était installé là avec sa femme depuis une quarantaine d'années. L'un avait 92 ans et elle en avait 85 ou 86. Voilà. Et cette maison avait toutes les chances de finir, comme parfois finissent les maisons dans la diagonale du vide. C'est-à-dire qu'elle meurt doucement et c'est extrêmement dommage. Et donc, il souhaitait la vendre. Et puis, il a rendu compte que tout valait mieux, y compris les communistes, s'il arrivait à vendre la maison. C'est-à-dire qu'il a fini par nous réserver le meilleur accueil et il nous a invités avec sa charmante épouse à manger des petits fours, etc. et à prendre le thé. C'était absolument charmant. C'est moi qui ai meublé la maison, mais avec la complicité des salles des ventes de Toulouse, où on peut récupérer, chiner et plein de choses à des prix très modérés. Donc le bureau là, voilà, ce sont des tableaux récupérés à la salle des ventes aussi, on ne sait pas trop d'où ils sortent, mais c'est des grands ancêtres. Alors là, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que cette nana-là, elle a vraiment une coiffure étonnante. Et on imagine qu'à l'époque, Madame de Véret, on voit la coiffure qu'elle a. Quand je pense qu'elle montait à l'échafaud avec cette coiffure, quand même, c'est surprenant. Il y a quelque chose aussi que je vais te montrer, tu vas voir. C'est... Voilà, ça c'est la salle à manger. Et là, vous avez le buste de Karl Marx. Eh bien, sur la cheminée, il est en tête de gondole, si je puis dire. Il a toute la place qu'il mérite. C'est du second degré. On peut même rajouter que c'est du troisième degré, quoi. Je crois surtout, effectivement, qu'on ne veut pas se prendre au sérieux, quoi. Voilà. Notre souhait le plus ardent, ça serait de pouvoir changer de monde. Mais on le fait en plaisantant, quoi.
Voilà, ceux qui sont là mangent ensemble. Chacun notre tour, on va dire, on fait la cuisine, on décide soit l'un soit l'autre de faire un plat. C'est bueno, c'est bien. Bon, et ben voilà.
Voilà, c'est là, dès qu'il fait beau. On a la chance d'avoir ce bel endroit et on profite du soleil.
Il nous manque Dominique.
Dominique !
Je m'appelle Dominique. Alors, je suis rentré depuis le 2019, mais j'ai continué à faire de l'évaluation de charges en soins en EHPAD en tant que gériatre pendant plusieurs années. Et ça fait seulement deux petites années que j'ai complètement cessé toute activité médicale. Moi, j'ai grandi dans un milieu petit bourgeois, bien pensant, de catholique, conservateur, pratiquant, à la lisière de l'intégrisme religieux. Bon, moi, je suis cinquième d'une famille de cinq garçons, le dernier, et on est de générations très différentes. Et j'étais le seul qui allait bénéficier d'une éducation moderne, entre guillemets, c'est-à-dire que mon père ne s'est pas occupé de moi. alors qu'il avait un peu massacré mes frangins, et j'ai pu voguer à ma convenance. Au cours de mes études de médecine, j'ai fréquenté différents milieux, politiquement plutôt militants. C'était après les années 68, et c'était fortement politisé. Et j'ai fréquenté des trottes, des Mao, des anards, enfin, j'ai fréquenté un peu tout le monde. Et ça m'a bien plu. Donc j'ai pris ma vieille de 3 chevaux camionnette et je suis allé voir un peu ce qui se passait dans des communautés rurales. Et je me suis retrouvé avec des personnes qui m'ont dit qu'il valait beaucoup mieux que je termine mes études de médecine avant de revenir les voir, parce qu'eux galéraient sur un plan financier, économique. Et du coup, ils m'ont renvoyé à mes études. Et puis après, j'ai un peu oublié de retourner en communauté. Mais enfin, c'était resté dans un petit coin de mon cerveau. Et puis, je joue au billard français. Et le président de l'Académie toulousaine du billard français, il connaissait mon profil. Et il m'a dit, dis donc, ça pourrait peut-être t'intéresser. Il y a des gens à Bérate qui cherchent des partenaires pour un habitat collectif. Et j'ai pris ma moto, je suis venu une belle après-midi à Bérate, j'ai rencontré Anne-Marie, on a discuté le coup, et ça a bien, le contact est bien passé, et je suis revenu, et j'ai payé, et maintenant je fais partie de la bande. Je suis à la Ménardière depuis 2 ans à peu près, et j'y habiterai dans 1 an à peu près quand les maisons en construction seront terminées. Je préfère être un peu plus indépendant. Je suis un collectif qui aime bien l'indépendance. Ma vie a consisté à choisir un peu ma famille, parce que moi j'ai un peu subi ma famille. Pour vous donner un exemple, mes 3 frères aînés n'ont pas voulu que j'assiste à leur enterrement, quoi. On était vraiment fâchés. Ils étaient plutôt partis très, très à droite, hein, pour ne pas dire à l'extrême droite. Et moi, j'étais le vilain petit mouton noir à 5 pattes, plutôt un peu à gauche. Et du coup, ils m'ont rejeté. Du coup, je préfère choisir mes amis et une famille de substitution plutôt que de subir une famille d'enfoirés qui ne peut pas me saquer. Le politique est partout. Ceux qui disent qu'ils ne font pas de politique, souvent ils sont de droite. Bon, la vie en général, c'est des choix sans arrêt, des choix de consommation, des choix d'existence, etc. Et tout ça, ça a un côté politique évident. Mais à la Ménardière, c'est plus qu'implicite, c'est aussi explicite. On a une sensibilité convergente par rapport aux excès du capitalisme et à la destruction de la planète que la spéculation capitaliste nous amène à constater. Et c'est une alternative à la propriété privée de l'habitat, quoi. Bon, chacun son petit pavillon de banlieue, son berger allemand, ses enfants bien dressés et le chien de même. Non, c'est pas notre truc, ça c'est sûr. Nous, ce qu'on aime bien, c'est boire des coups ensemble, c'est organiser des spectacles, faire le potager, bricoler plein de trucs, être actif sans arrêt, aménager le parc, le jardin, enfin, être actif intelligemment en se faisant plaisir. Il faut des moyens pour s'installer à la Ménardière, soyons clairs, 90 000 euros, c'est pas rien, mais si vous regardez le marché de l'habitat notamment, avec 90 000 euros, vous achetez un appartement à Toulouse, quoi. Donc bon, finalement, il faut des moyens, c'est vrai, mais il n'en faut pas tant que ça. On vit beaucoup moins bourgeoisement que beaucoup de petits bourgeois qui sont super endettés, n'ont qu'une obsession, c'est de paraître. Nous, on s'en fout complètement du paraître, en fait. Moi, ma voiture, vous voyez, c'est une 405 de 1996. Je ne suis pas obsédé par mon image de consommateur fringant. Si je peux m'imaginer suivre mes dernières années de vie à la Ménardière, bien sûr, sachant que moi, en tant que médecin, je pense que j'aurais accès à des moyens d'en finir si jamais j'estimais avoir fait sur moi un diagnostic assez funeste pour ne pas avoir envie de traîner trop longtemps. Mais l'ambiguïté, c'est que la Ménardière n'a rien d'un EHPAD. On n'est pas du tout dans la même perspective, on n'est pas dans la même, ni même les règles du jeu, ni la clientèle, ni enfin, ça n'a rien à voir. Il suffit de parler avec les uns les autres, vous ne trouverez nulle part, même au fond du parc, un résident dément cherchant sa chambre, se promenant nu parce qu'il a oublié de remettre son pyjama, quoi. On n'est pas du tout là-dedans. Mais dans 10 ans, la situation ne sera peut-être pas la même, ça c'est évident. Moi, je compte faire un vieux, on m'a toujours dit que j'avais des gènes maternels, et ma mère a été sur le pont, elle est morte à 98 ans. À 96 ans, elle était encore capable de tenir une conversation, quoi. Donc, 73 ans, moi, j'estime que je suis vraiment dans la fleur de l'âge, quoi. Hein. Donc, dans 10 ans, j'aurai quoi, 83 ans, mais c'est rien du tout, ça. On verra plus tard, on verra quand je serai vieux.
Je suis Éric Cabot, j'ai 68 ans, Brigitte c'est mon épouse, je suis de formation ingénieur, j'ai travaillé depuis le début pour une grosse société d'armement, et puis un beau jour j'ai décidé de changer d'orientation et de créer ma propre boîte, que j'ai revendue à mes salariés il y a quelques années, au moment où je suis parti en retraite. Il y a à peu près 3 ans, on a vu un article dans la Dépêche du Midi qui parlait justement de ces projets de vie communautaire pour passer sa retraite. Alors, on est allé pour voir un petit peu comment ça se passait et on s'est aperçu que c'était un projet qui était très complexe, cher. Hein, donc, c'était une espèce de maison de luxe bien adaptée, mais pas du tout ouverte. Et puis, à l'occasion justement de ces divers rendez-vous, on a rencontré Anne-Marie et Michel. Et puis, on a commencé à discuter avec eux. Et elle nous a dit, on a le droit de construire des maisons. Donc, si vous voulez, vous venez et vous construisez des maisons. Alors, ça nous a un petit peu trotté dans la tête. Et finalement, on s'est dit, pourquoi pas. Et on y est venu ponctuellement pendant des journées, des demi-journées, de façon à découvrir un petit peu toute l'équipe. Et puis leur montrer ce qu'on était nous et puis découvrir ce qu'ils étaient eux. Et puis finalement, quand on a vu que ça matchait bien, on a décidé effectivement de sauter le pas et de rentrer vraiment en tant que coopérateur. Dans notre réflexion de départ, j'avais surtout insisté auprès de Brigitte en lui disant, mais parce que Brigitte me disait toujours, on est très bien dans notre maison, pourquoi on resterait pas là ? Alors je lui dis, oui, c'est vrai qu'on est très bien dans notre maison. Maintenant, on est parfaitement conscient qu'elle est trop grande pour nous, 160 mètres carrés avec un grand terrain, et que on est capable de l'entretenir et d'y vivre tant qu'on est deux. Mais le problème, c'est que le jour où il y en a un des deux qui part, celui qui reste ne pourra pas rester là tout seul. Donc ça impliquera de vendre, de retrouver autre chose, de remonter un réseau de connaissances. Pour celui qui va rester, ça va être très très difficile. Alors, c'est vrai qu'une des raisons aussi, c'est que j'ai très mal vécu la mort de mes parents. J'ai mon père qui est mort en 3 secondes, lui, donc un matin au petit déjeuner, il s'est écroulé avec une crise cardiaque et en 3 secondes, c'était fini. Par contre, ma maman, elle, s'est retrouvée toute seule, justement, et elle s'est rendue compte, effectivement, qu'elle n'était pas capable de vivre toute seule dans sa maison. Donc, situation d'urgence, il a fallu décider pour elle, on n'a pas pu tenir compte de ses souhaits. Et puis finalement, on l'a ramenée à Toulouse et on l'a mise en maison de retraite. Et puis ensuite, elle a été malade. Enfin, ça a été très, très compliqué. Et finalement, quand elle a fini par décéder 2 ans après, on s'est dit, on veut éviter ça à nos enfants. Donc, on s'est dit, pourquoi pas anticiper. Bah, qu'on soit installé, qu'on soit déjà dans un groupe, et que le jour où il y a un des deux qui part, bah, celui qui reste soit déjà entouré par d'autres. On a aujourd'hui une grande peur de la solitude, parce qu'on a beaucoup de nos amis qui ont perdu leur conjoint, et ils ont souvent l'habitude de nous dire « le pire, c'est la solitude ». Donc ça, on veut essayer de contrer cette malédiction, hein, et d'essayer de trouver une solution avant. C'était aussi bien, on est dynamique, on fait plein de choses aujourd'hui, on ne change pas nos habitudes, on continue à partir en vacances tous les deux en camping-car, on a nos associations diverses, on a notre groupe de country pour danser, on a toute notre organisation qui continuera de fonctionner, même quand on sera ici. On est en collectivité, donc on se soutient, on s'entraide. Si demain, pour X raisons, vous ne pouvez pas aller faire vos courses parce que vous avez un souci, quelqu'un d'autre qui va faire ses courses peut peut-être vous prendre 3-4 trucs pour vous, et puis on s'arrange comme ça. Moi, je suis pas du tout dans la mouvance hippie de mes collègues, là. Des anciens maoïstes. Là. Mais non, personnellement, ça ne me dérange pas, très honnêtement, que leurs opinions politiques soient totalement différentes des miennes. Je pense qu'on est parfaitement capable de faire ce type de communauté et de fonctionner comme ça, sans obligatoirement avoir une opinion de gauche maoïste depuis la naissance. Je leur apporte des choses qu'ils n'avaient pas. Comme tout ce qui est entretien du bâtiment, tous les menus travaux, donc tout le projet de la construction des maisons. Ça, c'est quelque chose que personne ne voulait prendre au niveau de la communauté. Aujourd'hui, on construit le projet, donc tout est nouveau, tout est à faire. Et après, on va rentrer dans la phase où certains de nos membres vont commencer à vieillir, vont rentrer dans la maladie. Et là, ça va être une deuxième phase qui sera probablement plus difficile à gérer. Mais je pense qu'il se passera bien du fait qu'on ait eu justement cette phase avant de construction. Ça nous soudera suffisamment pour céder jusqu'au bout. Moi, je l'espère honnêtement, parce que c'est des gens que j'apprécie énormément, avec qui il est agréable de vivre. Alors bon, et on s'est dit que de toute façon, on allait chacun individuellement utiliser les services externes, bien évidemment, d'aide à la personne et ainsi de suite pour gérer. Hein. On n'a pas l'intention de se servir de nounou les uns les autres. Hein. Mais je dirais qu'on se soutiendra sur le plan psychique, hein, sur le plan intellectuel. Et puis, ma foi, la personne qui chutera dans sa maison en pleine nuit, elle aura son bip. Et puis, il y aura quelqu'un d'autre qui viendra lui donner un coup de main pour se relever et se coucher. You ain't got enough stamps in your passport for young H.O. International. Show young boys how to do this thing. The maturation of Jay-Z. Check me out.
C'était La Ménardière, Nous vieillirons ensemble, un reportage d'Anna Benjamin réalisé par Alexandra Candilonguet. Merci à Anne-Marie, Sylvie, Isabelle, Brigitte, Michel, Dominique, Eric et Olivier, ainsi qu'à Valentin Rémy, l'attaché de production des Pieds sur Terre, et Luce Mourant, notre stagiaire. Put tents on it. I don't got the right watch, I got the right watch. I don't buy out the bar, I bought the night spot. I got the right stock, I got stockbrokers that's moving it like white tops. I know you like this is child abuse, call diapers. I might just be getting nicer. You young boys ain't ready for real. 30's the new 20, I'm so hot. Used to let my pants sag, not giving. Bay boy, now I'm all grown up. I used to cruise the used car lot, put chrome in the truck. Bay boy, now I'm all grown up. I used to play the block like that. I used to carry knots like that. Now I got black cards, good credit and such. Bay boy, cause I'm all grown up. 30's the new 20.
I'm on fire still. These young voices like fire trails. False alarms. The next dawn. He ain't got it. On to the next one. Young. I'm still here. Yeah. Still here. Like Mike, gotta stop playing with these children. I'm a bully with the bucks. Let the patent leather shoes fool you, youngin'. I got the fully in the tux. That was my past. Now I'm so grown up. I don't got one gun on me. Got a slum on me to hire a gun on me. Get you spun like laundry. And I'll be somewhere under palm trees. Calmly listening to R&B. When we get the call, he's no longer with us. Fire your babysitters. You little fall back for real. 30's the new 20. I'm so high, you still let my pants sag. Not giving Bay boy, now I'm all grown up. I used to cruise the used car lot, put chrome in the truck. Bay boy, now I'm all grown up. I used to wear my hoodie like that. Five deep in a hoopty like that. Now I got black cards, good credit and such. Bay boy, cause I'm all grown up. Y'all roll, I smoke Cubans all day. Y'all young as Chase, I'm patroning it straight. I like South Beach, but I'm in Central Bay. Y'all drink Dom, but not rosé. Your chick shop at the mall. My chick burn it down, bird offs. Coming back with broken bags. Your chick is like, what type of purse is that? I'm from the era where don't snitch. You from the era where snitching is the. I'm afraid of the future. Y'all respect the one who got shot. I respect the shooter. Y'all go to parties, the ice grill. I go to parties to party with nice girls. Young boys gotta chill. 30's the new 20. I'm so high, you still let my pants sag. Not giving a Bay boy, now I'm all grown up. I used to cruise the used car lot, put chrome in the truck. Bay boy, now I'm all grown up. Yeah, we used to ball like that. Now we on the ball team, holler back. Now I got black cards, good credit and such. Bay boy, cause I'm all grown up.